Ribine, le magazine qui explore, qui visite, qui voyage et qui découvre. Parcourez les chemins de traverse en suivant nos micros.
Aujourd'hui dans Ribine, on s'intéresse au genre. On entend régulièrement parler d'inégalité de genre, d'identité de genre, mais au fait, qu'est-ce que c'est le genre ? C'est quoi la différence avec le sexe ? Est-ce que le genre, c'est vraiment naturel ? Et comment le genre nous impacte dans nos vies ? Pour entrer dans ce vaste sujet, rendons-nous au lycée Jean Moulin à Châteaulin avec les bénévoles de l'association Passage.
Vous savez la raison de votre présence et de notre présence aussi ? Est-ce qu'on vous a expliqué ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ok. Donc nous faisons partie de l'association Passage, la maison queer et féministe. C'est un centre LGBT à Brest qui agit pour les droits des personnes LGBTQIA+, pour les droits des femmes et de toutes les personnes, en fait, vraiment sur la question des droits humains, sur la lutte contre les discriminations. Donc il y a 5 associations qui composent Passage. Une association qui s'appelle Nous Toutes, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les Pétrolettes, qui agit sur les questions de santé sexuelle. Les Détra Queer, qui est une association LGBT. Brest La Trans, qui est une association trans. Et il y a également une asso d'archives LGBTQIA+. Moi, je m'appelle Billy. Mon pronom, c'est il ou yel, c'est-à-dire que quand on parle de moi, on utilise il ou yel, et on utilise le masculin.
Et moi, je m'appelle Canel, et on peut utiliser elle, ça me va.
Moi, je m'appelle Oal, j'utilise il en pronom.
Et moi, c'est Céline, et mon pronom, c'est elle.
Et moi, c'est Zoé, pronom elle.
Est-ce que vous avez l'habitude de ce genre de... d'introduction sur la question des pronoms notamment? Vous avez déjà entendu?
J'ai déjà entendu, mais...
Ouais, dans quel contexte?
Une vidéo sur les réseaux.
Ok.
Ouais, pareil, juste sur les réseaux, pareil. Ça,
ok. Mais... Est-ce que vous voyez, vous avez une idée pourquoi on fait ça?
Pour sensibiliser les personnes.
Ouais, et donc...
Parce que souvent quand on parle d'une chose, on dit tout le temps « il » et jamais « elle ».
Ouais, carrément. L'idée, là, donc on va être ensemble pendant un peu moins d'une heure. Bon, ça va être de parler des questions LGBTQIA+, et aussi d'essayer de venir entraîner notre cerveau à ne pas présumer le genre ou l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on a un référentiel qui est construit par la société, qui est, il y a des vêtements qui sont dits masculins, des vêtements qui sont dits féminins, des cheveux courts, peut-être de la barbe, du maquillage, des cheveux longs. De préciser les pronoms, ça évite de... mégenrer des personnes, c'est-à-dire de ne pas utiliser les bons pronoms. Bon, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg sur les questions LGBTQIA+, mais c'est une bonne entrée en matière pour un peu s'entraîner à comment on perçoit les personnes. Et donc, si vous voulez bien, vous présenter prénom et pronom aussi, si vous le souhaitez.
Moi, c'est... Je m'appelle Lucie Lelouarne, je suis apprentie sociologue, actuellement en master d'études sur le genre à Brest.
Ok, super.
Le genre, c'est une construction sociale. Quelque chose que les humains utilisent pour fonctionner entre eux. Le genre, il vient associer des rôles aux hommes et des rôles aux femmes qui sont différenciés et qui, du coup, ont des impacts après sur la vie de ces hommes et de ces femmes. Il vient aussi y mettre des stéréotypes sociaux, comme le fait que les femmes sont émotives et que les hommes sont musclés et virils, par exemple. Le genre, c'est quelque chose qui est construit socialement et du coup, qui peut être très facilement... qui peut être en tout cas déconstruit. C'est aussi quelque chose qui a un historique et qui dépend aussi du contexte géographique. Le genre en France, c'est pas la même chose que le genre, je sais pas, en Inde ou n'importe où ailleurs. Et le genre aujourd'hui en France, au XXIe siècle, c'est pas la même chose que le genre au XVIe siècle. Comme toute construction sociale, il y a des évolutions qui sont lentes, mais qui, grâce au travail des historiens, des sociologues, on se rend compte qu'elles sont là. Le système de genre dans lequel on vit en France, en tout cas, il est très binaire, les hommes, les femmes. Et il est fait pour qu'on le pense naturel. Il y a les vagins, il y a les pénis et c'est tout. Et du coup, on y associe les hommes et les femmes. De fait, c'est pas du tout une réalité. Que ce soit dans le monde humain, mais dans mon animal, c'est pas du tout quelque chose de vrai, ni de naturel. Au niveau de la biologie, en tout cas, le sexe n'est pas binaire.
Canel vient de décrire au tableau plein de mots.
Et de lettres.
Et de lettres, oui. En fait, les mots sont des salades de lettres. Ce qu'on vous propose, c'est de décortiquer LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire chaque lettre, et de venir un petit peu poser une définition sur ces termes.
Est-ce que ça vous va de faire les lettres dans l'ordre comme ça? Vas-y.
J'ai plus exactement, mais
lesbienne, gay, bi, transgenre, queer. Après, je sais plus.
Ok, c'est déjà pas mal.
Asexuel, je dirais pas. Ouais. Ah, mais c'est le I, j'ai pas.
Tu connais ?
Oui, j'ai oui.
Ok, intersexe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme ?
Oui, je sais plus dans quel contexte.
Il y a un synonyme pendant longtemps qui a été utilisé, qu'on n'utilise plus du tout maintenant, qu'on utilise pour les animaux uniquement, mais ça peut donner un peu une idée. Avant, on parlait de hermaphrodisme. Hermaphrodite, est-ce que ça vous parle ?
Les grenouilles.
Et des escargots. Donc on n'utilise pas ça pour les humains. Intersexe, si on coupe le mot en deux, qu'est-ce qu'on a comme...
Intersexe.
Ouais, inter, qu'est-ce que c'est comme préfixe en latin ?
Intersexe entre les deux ou quelque chose comme
ça ? Ouais, c'est entre, ouais. Donc, attention, parce que ça va vous ouvrir tout un univers. À la naissance, comment est-ce qu'on définit si un bébé est une fille ou un garçon ?
Avec son sexe.
Avec son sexe, donc ce qui est visible ?
Un pénis ou un vagin.
Ok, très bien, pénis ou vulve, garçon ou fille. Il y a 1,7% des naissances, 1,7% des bébés. En France, ça représente 12 000 naissances par an. Où l'appareil génital externe n'est pas 100% masculin ou 100% féminin. Ça veut dire que on a décelé des caractéristiques sexuelles. Il y a une quarantaine de variations du sexe chez les humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le pénis et la vulve avec les attributs primaires ou secondaires sexuels qui vont avec. Il y a une quarantaine de possibilités entre ces deux extrémités, on va dire.
Et quand on dit qu'on ne les voit pas, c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'écho quand on est dans le ventre encore. C'est quelque chose qui va se voir vraiment à la naissance où en fait le médecin il peut pas définir le sexe du bébé. Parce que il peut y avoir un pénis sans testicule, il peut y avoir une vulve avec un clito hyper développé, on peut penser que c'est un pénis. Le médecin n'est pas en capacité de définir.
Parce que ça rentre pas dans ses critères de à quoi ressemble un sexe masculin, à quoi ressemble un sexe féminin. En France, vous savez, sur la carte d'identité, on a le M ou le F. Les médecins, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est défini pour pouvoir rentrer dans une de ces deux catégories construites par la société de masculin ou féminin. Parce que la société, elle a besoin d'avoir un classement des humains et le classement du genre. À la fois, ça permet d'avoir un maintien de certaines normes sociales, de qu'est-ce que les femmes font, qu'est-ce que les hommes font. Et donc, les médecins choisissent, en général, par rapport à l'opération qui va le mieux réussir. Ou qu'est-ce qui est le plus simple pour eux de faire. Ce sera pas, et les parents sont pas au courant qu'il n'y a pas un besoin vital.
Et donc, l'enfant se retrouve avec un genre qui n'est pas forcément le bon.
En fait, le fait d'être intersexe, c'est pas une maladie ou une malformation ou un problème de santé. C'est une variation, tout comme on a des variations de soit on a les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les cheveux frisés, lisses, bruns, roux.
Pour le coup, il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses ou de personnes avec les yeux verts. C'est juste la diversité de la biologie, de la diversité des corps, qu'on a un peu oublié pour essayer de faire rentrer dans les cases de normes de genre, femmes et hommes, comme on a l'habitude de voir, d'entendre. Little Bates. Little Bates.
Aujourd'hui, on fait une différence assez explicite entre sexe et genre, où le sexe, ça devient du coup vraiment la partie biologique, alors que le genre, du coup, c'est la partie sociale. On va venir parler d'identité de genre. Cette identité de genre, elle peut ne pas correspondre au sexe qui est assigné à la naissance. Et ces choses-là, c'est des choses qui ont existé de tout temps et de toute culture. Il y a plein d'exemples dans l'histoire qui remontent à très loin où, justement, il y a plus que deux genres. Il n'y a pas forcément que les hommes, que les femmes. Il existe une multitude d'autres façons de fonctionner en société en rapport au genre. C'est des choses qu'on peine à imaginer parce que ça sort vraiment de nous, nos normes de genre, en fait. Du coup, c'est compliqué d'imaginer comment ça pouvait être il y a très longtemps dans des cultures très différentes. Par exemple, en Inde, il y avait ce qu'on appelait les Irshas. Donc, je ne sais pas si je le prononce très bien. elles existent toujours aujourd'hui. C'était plutôt des personnes qui étaient assignées hommes à la naissance, ou qui ont un pénis, mais qui s'identifiaient, en tout cas, nous, dans la façon dont on va le voir, plutôt à des normes féminines, mais qui avaient un rôle social très défini. Elles étaient plutôt là sur tout ce qui était cérémonies spirituelles, les baptêmes, les mariages. Et c'était vraiment ça leur rôle. Elles avaient un rôle à part dans la société, comme les hommes, comme les femmes. Elles étaient respectées, elles étaient incluses dans la société indienne à l'époque.
Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou des questions ?
Le plus, du coup, il correspond à quoi ?
Pas une question.
À toutes les autres lettres.
Non, oui, je conçois, mais pour savoir quelles sont les...
Dans le plus, on va mettre aussi toutes les orientations sexuelles et les identités de genre qui ne sont pas les non-binaires, par exemple, et également celles qui existent ou qui ont pu exister dans d'autres sociétés qui ne sont pas occidentales. Par exemple, chez les Premières Nations et les natifs des Amériques du Nord, il y avait énormément de sociétés qui avaient ce qu'on appelle maintenant des two-spirits. C'est des personnes qui, en fait, avaient les deux esprits en elles. Masculin, féminin, qui avaient un rôle très important dans la société. Elles pouvaient être des guérisseuses, des enseignantes, des guides spirituels. Donc c'était des personnes qui étaient très respectées et considéraient qu'elles avaient un savoir un petit peu plus supérieur parce qu'elles avaient les deux esprits. On en retrouve aussi en Asie du Sud-Est, au Bengale, Polynésie, Tahiti. Et ça a toujours existé dans plein de sociétés à travers le monde. Et ensuite, il y a eu la colonisation qui a importé le modèle de la binarité des genres et de l'hétérosexualité. Et ce qui a cherché à effacer, en fait, ces identités-là. Ça va ? Ok. My name is she, her. Sometimes it's they, them. Please don't call me he. Please don't call me him. Just cause my voice is deep doesn't mean nothing. Just cause his voice is high doesn't mean nothing. I'm in a trance and on indigenous land, and you know just where I stand. Girls like us, I am. Music is my romance. Thinking about choosing a new name. I'm crying from Wednesday to Tuesday. Eating quinoa, no souffle. I'm ancient ways, not new age. Yes, I'ma stick to tradition, indigenous wisdom and knowledge. So listen, transphobia is not part of our language. So please stay out of trans people's business. Two-spirit, I'm a medicine person. You hear it, only speak truth in the verses. Trigger warning when I check my phone. Hearing about what they're finding in the churches. My flag is pink, white, blue. My flag is Taiwan, Tinsu, you. Pachakuti, Yanapanaku, Yaku, Ayinyanchu, Mananchu. Ayinyi, Inti, Inti, Yanosai, Inka. So you will not see me, Quechua, Siwi, no Kiwi, see me. So no kiss me. My flag is pink, white, blue. My flag is Taiwan, Tinsu, you. Pachakuti, Yanapanaku, Yaku, Ayinyanchu, Mananchu. Ayinyi, Inti, Inti, Yanosai, Inka. So you will not see me, Quechua, Siwi, no Kiwi, see me. En France aujourd'hui, quand on parle de genre, on vient surtout parler d'inégalité de genre et de toutes les conséquences négatives que le genre va avoir auprès des individus. C'est-à-dire que le genre, il vient imposer des normes sur les individus, que les individus viennent suivre ou pas, selon qui elles sont. Et ces normes, on va les appeler cis-hétéro-patriarcales. C'est un grand mot. Cis, c'est pour cisgenre, c'est-à-dire que c'est l'opposé ou le contraire de transgenre. Donc en fait, on a des normes où les personnes s'identifient au sexe auquel elles ont été assignées quand elles sont nées. Et quand on sort de ces normes, on devient des personnes déviantes au regard de la société. Et donc du coup, on vient transgresser ces normes cisgenre. Hétéro parce que en fait, la norme de genre, elle est associée à la norme de sexe. Et en fait, elle est aussi associée à la norme d'orientation sexuelle. Quand on naît avec un vagin, une vulve, on est une femme et on est hétérosexuel, on est attiré par les hommes. Ça, c'est vraiment la continuité de ces normes de genre. Et du coup, dès qu'on en sort, pareil, on devient déviant au regard de la société. Et patriarcale, parce que ces normes de genre, elles imposent aussi une hiérarchie entre les genres, entre les sexes, entre les personnes. Elles imposent une hiérarchie de domination des hommes sur les femmes. Et donc, du coup, tout ça aussi, ça vient ouvrir tout un panel d'inégalités.
Nos corps, nos choix. Nous voulons pouvoir décider librement d'avorter, de bénéficier d'un droit garanti à l'IVG partout et tout le temps, et non pas d'une liberté qui implique que ce droit fondamental peut toujours être menacé. Nous voulons le droit de transitionner, d'adopter, de porter le voile ou de l'enlever comme nos sœurs en Iran. Nous voulons vivre sans être exposés aux violences, quel que soit notre genre, orientation sexuelle, âge, handicap, tenue vestimentaire ou religion. Nous voulons la fin de l'impunité policière et un vrai financement des services publics pour l'éducation, pour la santé, pour l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Le 8 mars, prenons la rue, luttons ensemble pour un monde féministe, un monde dans lequel nous sommes tous libres. Vive la lutte, vive la grève générale féministe.
Les constructions sociales, que ce soit en rapport aux gens ou avec tout plein d'autres choses, hein, elles s'apprennent dès l'enfance, dès qu'on naît. En sociologie, on parle de socialisation primaire. C'est vraiment le moment où les petits-enfants, ils se construisent et où on leur balance, en vrai, toutes les normes dans lesquelles on veut qu'ils rentrent, et notamment les normes de genre. Ça va être, par exemple, quand on voit deux enfants, une petite fille, un petit garçon, où on va se dire... Oh, ils iraient bien ensemble, oh, ça ferait des bons petits mariés, ou on va même les habiller en mariés ou en costume, genre homme-femme. C'est un peu ces moments-là où on vient vraiment leur apprendre comment être un bon petit garçon, comment être une bonne petite fille, et comment être en relation avec les autres garçons, avec les autres filles. Et après, quand on grandit, on va du coup en sociologie parler de socialisation secondaire. En fait, on continue d'apprendre ces normes. Et la société continue de nous faire rentrer dedans ou de venir nous punir, entre guillemets, dès qu'on en sort, pour justement nous faire rentrer dans ces normes. Ça va être, par exemple, quand on est une femme environ 25 ans, où la famille, les amis, l'entourage vient nous poser systématiquement la question de « Alors, comment ça se passe avec ton copain ?»« Et alors, les enfants, c'est pour quand ?» Alors que peut-être que cette personne n'a pas envie ni d'avoir un copain, ni d'avoir des enfants. Et ça aussi, c'est des normes de genre qu'on vient nous apprendre par la répétition de être une femme. Ça doit avoir un copain, un mari, des enfants. Même quand on est dans la position de dominer, donc quand on est une femme, par exemple, on va suivre ces règles qui nous dominent parce que c'est dur d'en sortir. En fait, c'est des trucs qu'on nous a appris et qui sont là depuis qu'on est né. Et du coup, en fait, ça demande quand même beaucoup de choses pour réussir à remettre en question ces normes-là. Et ça demande souvent aussi de se mettre un peu en danger. Donc du coup, ça explique aussi que ces normes, elles se produisent, elles se reproduisent, en fait, parce que même les personnes dominées ne font rien contre ces normes-là, en fait. Ou peu de personnes, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, bah ok, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour renverser ça. Mais de fait, le poids de ces normes, il est tel que ça marche pas comme ça.
Il y a des cartes sur la table et on va vous inciter à prendre 2 à 3 cartes chacun. Et l'idée, ça va être de la lire à voix haute. Et sur les cartes, il y a des dates. Et du coup, vous trouvez la date qui correspond au thème de la carte.
Ok, un mois. Une personne trans participe aux Jeux Olympiques pour la première fois, je dirais en 2021.
Ok, c'était quoi les autres dates?
65 et 90.
Bravo, bien joué, 2021. Cette personne trans, alors les Jeux Olympiques autorisent la participation des personnes trans qui ont transitionné, c'est-à-dire qui ont fait leur changement de le M ou le F sur la carte d'identité, qui prennent des hormones depuis au moins 5 ans, je crois, ou ça dépend des comités ou des fédérations, mais pour les JO, je me souviens plus exactement ce que c'est. Mais depuis 2004, les personnes trans qui ont transitionné peuvent participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est arrivé pour la première fois en 2021. Pour la petite anecdote, elle a perdu. Elle a fini dernière de sa catégorie. Donc c'était une femme trans qui faisait de l'haltérophilie, qui était dans une catégorie féminine, et qu'a fini dernière.
Et puis les personnes peuvent participer sous un grand nombre de conditions, parfois, enfin, que perso, moi je trouve assez surréaliste, notamment, si je dis pas de bêtises, avec une opération des parties intimes. Il faut que la personne ait transitionné de sexe aussi pour participer. Et moi personnellement, quand je fais du hand, je joue sont des parties intimes. Donc, je ne crois pas que ce soit nécessaire pour participer au Géo. Mais du coup, c'est des gens qui ont certes la possibilité depuis peu de temps de participer au JO, mais sans la même liberté que les autres personnes qui y participent. Et il faut pouvoir répondre d'un tas de choses pour pouvoir participer. Et on attend beaucoup des femmes trans, mais beaucoup moins des mecs trans. Quand un mec trans participe au sport de mec cis, on se fiche de ses capacités physiques et on ne vient pas les remettre en question. Et si une femme trans participe au sport de femme cis, là on attend beaucoup parce que comme avant de transitionner c'était un mec, on part du principe qu'il a beaucoup plus de force physique et maintenant c'est une femme, donc on attend d'elle d'avoir beaucoup moins de force physique que les autres.
Dans certaines conditions, il y aurait un avantage, non ? Je sais que quand on est un homme, on a plus de certaines qualités physiques que des femmes, mais quand on transitionne, je sais pas comment, quand tu transitionnes, tu peux faire que t'as moins de force ou... Comment tu peux ne pas garder ton ancienne force ?
Alors, y a différentes manières de transitionner. Il peut y avoir des transitions sociales, on change de prénom et je vous demande de m'appeler Christine et d'utiliser elle, par exemple. Ça, c'est une transition sociale. Après, on va avoir les transitions médicales. Donc là, il y aura la prise d'hormones. Donc quand c'est une transition masculinisante, on prend de la testostérone et ça vient diminuer les hormones naturelles proches de zéro, donc œstrogène, progestérone. Et sur les transitions féminisantes, donc on prend des œstrogènes et de la progestérone et ça vient réduire les testostérones à des niveaux plus bas que chez des femmes cis.
Il y a de la testostérone dans le corps des femmes cis tout le temps. Une femme a aussi de la testostérone et quand elle a ses menstruations, c'est l'hormone la plus présente dans le corps de la femme. Donc ça veut dire que si jamais je participais au Géo pendant mes règles, j'aurais plus de testostérone que en temps normal.
Et peut-être plus de testostérone que des mecs.
Eh ouais.
Donc il y a un peu cette question-là de ça vient baisser le taux d'hormones quand il y a une prise d'hormones liée à la transition. Et les photos, en fait, elles sont assez flagrantes de avant-après où ça vient faire fondre la masse musculaire, mais d'une puissance. Parce que la testostérone, ça vient... C'est pour ça que c'est un dopant aussi dans le sport, c'est que ça vient faciliter la prise de masse. Et donc quand on vient prendre œstrogène, progestérone, qui en plus viennent répartir la masse musculaire et graisseuse de manière différente, on perd ces avantages-là, en fait. La question des avantages aussi, elle est assez intéressante sur les avantages biologiques. Par exemple, une équipe de basket 100% masculine, s'il y a un mec qui fait 2m10 et que les autres ils font 1m80, même 1m90, on va pas se poser la question de l'avantage qui soit injuste. On va plutôt dire que il a très bien choisi son sport, comme ça il pourra ratatiner l'équipe adverse. Ou sur de l'athlétisme, d'avoir des athlètes qui ont des jambes beaucoup plus longues que les autres. Et ça va être un avantage qui est pas considéré comme déloyal ou injuste. Donc en tout cas, nous les réflexions qu'on a, c'est de se dire, on a tous des différences physique, physiologique, biologique, qui font qu'on peut être meilleur que d'autres dans certains domaines. Et c'est pas quelque chose qui est remis en question, sauf quand il y a la question du genre qui rentre en jeu. Et donc c'est là où nous, on essaye de pousser un peu la réflexion sur la question des discriminations envers les personnes trans ou des discriminations aussi misogynes, en fin de compte. Il y a beaucoup de compétitions sportives au niveau international, des fédérations, ne veulent plus que les femmes trans puissent concourir dans les sports de femmes, dans les catégories féminines, parce que les compétitions ont peur qu'il y ait cette concurrence injuste et cet avantage biologique. Donc, ils vont mettre en place des tests, soit des tests hormonaux, soit des tests de chromosomes pour savoir si tu as bien des chromosomes XX. Il y a peut-être même des choses bien plus trash de vérifier, de choses gynéco pour vérifier qu'est-ce que tu as entre les jambes. Et c'est comme si on venait définir c'est quoi une femme. Une femme, elle a des traits fins, elle n'a pas une poitrine trop plate. Et parce que si c'est le cas, on va se dire que peut-être elle nous ment et que c'est pas une femme, quoi. Je trouve que c'est important de pouvoir réfléchir à tout ça parce que aussi, c'est des sujets dont on parle beaucoup dans les médias. Il y a une grosse panique morale autour de la participation des femmes trans dans les sports féminins. Voilà, l'idée, c'est que vous ayez un peu des billes de réflexion. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, choses à dire?
Toutes les personnes qui sortent des cases hommes, masculins, virils, etc., femmes, féminines, douces, émotives, je sais pas quoi, sont un peu exclues et finissent dans les marges de la société finalement. Toutes les personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, on vient les placer dans les marges. Et donc du coup, elles ont aussi moins facilement accès à tout plein de choses dans la société, des emplois, des logements, l'accès à la santé. C'est un peu le principe des discriminations finalement. Dès que tu sors d'une certaine norme, là on parle de genre, mais il y en a plein d'autres, tu viens du coup être discriminé par la société de fait. Les systèmes de discrimination, les systèmes d'oppression, le patriarcat, le racisme et le suprémacisme blanc, le capitalisme, ils sont tous liés les uns aux autres. Et donc du coup, ces normes sont aussi liées les unes aux autres. On l'a vu récemment, en 2024 par exemple, avec l'exemple de Iman Khelif, je ne sais pas si je le prononce bien non plus, qui est une boxeuse algérienne qui matchait au JO et qui s'est pris une vague de... notamment transphobie, mais pas que, parce qu'on pensait que c'était une femme trans, parce qu'elle était trop forte, qu'elle correspondait pas aux stéréotypes de beauté auxquels les femmes doivent correspondre, mais aussi parce que c'était une joueuse algérienne. Et en fait, tout ça se mélange pour venir dire que cette femme n'est pas une femme. Et de fait, si ça avait été une joueuse française, qu'elle avait été blanche, blonde, mince, peut-être moins musclée, des épaules moins carrées, ça aurait été pas du tout la même chose. Du coup, les stéréotypes de beauté qu'on impose aux femmes, ils sont aussi très racistes dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on dit que ces systèmes d'oppression, ils sont liés, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et par exemple, le capitalisme, l'économie dans laquelle on est, où on veut produire de plus en plus pour toujours moins cher, pourrait pas fonctionner sans la famille nucléaire, ni sans la domination des femmes, où bah, elles sont payées moins cher, elles font tout le taf de reproduction démographique, de prendre soin des enfants, etc., pour qu'eux puissent aussi aller travailler derrière. Sans cette domination des femmes, le capitalisme, il marcherait pas aussi bien. Ce système de genre, il a des conséquences sur tout le monde, sur les femmes, sur les minorités de genre, mais aussi sur les hommes. On vient aussi leur imposer tout plein de stéréotypes auxquels ils doivent correspondre pour être vraiment 100% dans la norme, à savoir que c'est impossible d'être 100% dans la norme. C'est des trucs qui sont inatteignables. Mais du coup, on pousse les gens à y adhérer au plus possible. Pour les hommes cisgenres, bah, c'est le même principe. On vient leur dire qu'ils doivent être virils, qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent pourvoir aux besoins de toute leur famille, qu'ils doivent surtout pas être efféminés, qu'ils doivent... Enfin, il y a vraiment tout plein de choses auxquelles on... Ils doivent correspondre pour être des vrais hommes. Et ils sont du bon côté parce que c'est eux qui dominent. Néanmoins, il y a quand même vraiment tout plein d'hommes qui, en fait, si on leur imposait pas tout ça, seraient peut-être des personnes très très différentes et beaucoup plus sympathiques.
Je crois que ça va sonner.
Ouais, ça va sonner.
Ça a sonné déjà, super. Merci de votre attention et de votre participation. C'est super.
Bon courage pour la journée.
Ouais.
Merci. Ah non, c'est trop bon. Au revoir.
Vous venez d'écouter un documentaire sur le genre avec l'association Passage. Ce documentaire a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bonne écoute sur Transistor.
J'arrive comme une attaquante en plein contre éclatante et craquante. Ils se demandent qui est cette jeune femme épatante. Est-ce que c'est dur de bien rapper? Pas tant, je fais ça devant mes doudous depuis que j'ai 4 ans. Je pensais en enfance, je mange pas leur, ils sentent la sauce. Avant j'écoutais des rappeurs mais ils sont dans la sauce. Je ferme les yeux et je me jette dans la fosse. Je fais pas ça pour le buzz ni pour des vêtements gratos. Je suis pas peu fier, je pars de R, je braque ce game chaque semaine. Ils disent que ça se fait pas, moi je dis que ça se fait. Et j'en suis là grâce à mon taf et à mes actes. J'ai fait ni nouvelle école, ni la Starac. J'suis pas dans les révélations, mais pourtant j'fais un son. Et je les réveille à fond, mon esprit vogue entre rêve et passion. Ça m'avait manqué, on le fera si Dieu veut. J'suis pas un garçon manqué, juste une meuf qui fait mieux que.
J'voulais seulement vivre la vraie vie, celle que j'imagine dans mes rêveries. J'voulais seulement vivre la vraie vie, celle que j'imagine dans mes rêveries. J'ai des supporters et des ennemis, et j'prie pour que les deux soient bénis.